Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h au sommaire aujourd'hui. Brexit, un cap est franchi. Il y a moins d'une heure, Michel Barnier, le négociateur européen, avait enfin une bonne nouvelle.
Mesdames, Messieurs, nous avons donc trouvé un accord avec le gouvernement britannique sur le retrait ordonné du Royaume-Uni de l'Union européenne et aussi sur le cadre de notre future relation. Brexit is a school of patience.
Oui, le Brexit est une école de la patience. La preuve, cet accord qui ne prévoit aucune frontière, aucun contrôle douanier entre le nord et le sud de l'Irlande, doit encore être adopté par le Parlement de Londres. Et ni les unionistes irlandais, ni l'opposition travailliste n'en veulent. Nous allons à Bruxelles et Londres dans un instant. Les voitures SUV entre 4x4 et monospace sont une pollution majeure. Deuxième source de hausse des émissions de CO2. Gros nuage, les ventes de ces voitures ont plus que doublé en une décennie. La réforme des retraites, nouveau débat ce soir animé par Édouard Philippe dans le Jura. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Bruno.
Et question à propos de cette réforme, les femmes seront-elles perdantes?
Les droits acquis aujourd'hui en trimestre supplémentaire pour la naissance de chaque enfant ne seront pas obligatoirement conservés dans le futur système des retraites. Le mode de calcul change également. Il y aura des gagnantes et des perdantes.
A tout à l'heure pour les détails dans ce journal encore. La boxe professionnelle, 3 morts cette année à l'issue de combats. Dernier en date, l'américain Patrick Day. Faut-il et comment changer les règles pour éviter ces drames. La taxe foncière explose dans les campings du Var. Nouveau mode de calcul, un camping voit sa facture passer de 120 000 euros à plus de 3 millions. Des compagnons d'Emmaüs sans papier arrêtés en Occitanie. La loi est appliquée très sévèrement. Colère, vous l'entendrez, du responsable Emmaüs à Rodez. À 13h30 sur France Inter, La Terre au Carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Un invité de prestige aujourd'hui.
Oui, je reçois l'américain Jeremy Rifkin, l'une des voix mondiales de l'écologie politique. Pour faire face au dérèglement climatique, il propose une troisième révolution industrielle basée à 100% sur les énergies renouvelables. Vous pouvez lui poser toutes vos questions dès maintenant.
Au 01 45 24 7000, les questions maintenant, l'émission à 13h30, La Terre au Carré, et aussi l'inquiétude face au changement climatique qui se voit dans le domaine de l'art. C'est flagrant à la FIAC, la foire d'art contemporain cette année. Beaucoup d'œuvres consacrées au sujet. Reportage tout à l'heure d'Isabelle Pasquier. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Combien de litres de café, d'heures de sommeil sacrifiées et de coups de téléphone passés depuis le début des négociations sur le Brexit? Eh bien, ces négociations ont franchi une étape importante ce matin à Bruxelles. Bonjour Angélique Boin.
Bonjour.
Correspondante de France Inter à Bruxelles, un accord a donc été trouvé entre Européens et Britanniques. Les détails du texte dans un instant avec vous Angélique. D'abord, Michel Barnier qui insiste, le négociateur européen, sur un point prioritaire à ses yeux à propos de cet accord.
Ce texte, mesdames et messieurs, permet d'apporter de la sécurité juridique, de la certitude, partout là où le Brexit crée, comme toute séparation, de l'incertitude. En particulier et d'abord pour les citoyens européens au Royaume-Uni, les citoyens britanniques qui vivent dans un de nos États membres, ces citoyens ont toujours été et resteront notre priorité. L'incertitude pour ces citoyens a trop duré. Grâce à cet accord, leurs droits seront enfin garantis dans la durée.
Alors Angélique Boin, on vous retrouve après des jours et des heures de suspense. Il y a donc finalement un deal.
Oui, le soleil brille sur Bruxelles, disait ce matin un haut responsable européen. En arrivant, c'est bon signe, il avait donc raison. Voilà donc un nouvel accord de dernière minute, officialisé à moins de 3 heures de l'ouverture de ce sommet que l'on disait décisif. Et cela, après 6 jours de négociations quasi non-stop et une dernière nuit où l'on s'est arraché les cheveux sur la question de la TVA. Un accord qualifié de juste et équilibré par le président de la Commission. Nous l'avons fait, se réjouit Jean-Claude Juncker. C'est la preuve de notre engagement à trouver une solution. Reste aux 27 chefs d'État et de gouvernement attendu ici à 15h à endosser ce texte, mais c'est une formalité. La patience est une vertu, a souligné de son côté Michel Barnier, hein, visiblement fatigué mais soulagé, en expliquant très longuement dans son point de presse que ce nouveau dispositif a été co-construit avec les Britanniques.
Alors voilà pour la photo et les déclarations. Les détails de l'accord maintenant, Angélique, il y a des concessions des deux côtés.
Oui, rappelons que le prérequis, c'était d'éviter le retour d'une frontière physique entre les deux Irlandes pour préserver la paix. Mais pas question néanmoins de voir arriver, par exemple, du bœuf aux hormones dans nos assiettes. Hein. À Bruxelles, on a donc renoncé au fameux backstop et décidé de faire confiance, finalement, aux Britanniques pour éviter que ces marchandises non conformes à nos standards européens ne se retrouvent dans les caddies des Irlandais qui resteront, eux, dans l'Union européenne. Et ce sera les autorités britanniques qui seront chargées sur leur territoire d'appliquer le code douanier européen. Cela permet de dire, dire juridiquement que l'Irlande du Nord reste dans l'union douanière britannique et reste donc arrimée à Londres. Les Nord-Irlandais auront aussi finalement un droit de regard sur ce dispositif de façon régulière, ce qui n'était pas gagné. Enfin, un compromis a été trouvé sur la nature de la relation future entre les deux parties.
Merci Angélique Bouin, en direct de Bruxelles. Pas de frontières donc sur cette île d'Irlande. Il y a donc un deal, oui, mais écoutez Emmanuel Macron à son arrivée à Bruxelles à la mi-journée.
Nous avons eu en effet une bonne nouvelle ce matin avec la finalisation d'un accord qui apparaît comme positif. Maintenant, il convient de passer les prochaines étapes. Et instruit par le passé, il faut rester raisonnablement prudent.
Rester prudent, dit Emmanuel Macron. Les chefs d'État et de gouvernement se réunissent cet après-midi. Donc, et puis, bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Correspondant de France Inter à Londres. Bah oui, il faut passer par Londres. Parce que, et ça explique sans doute la prudence du président français qu'on vient d'entendre, le texte de ce matin doit encore être validé par le Parlement britannique qui siégera un samedi. C'est rarissime, après-demain. Et Antoine, le feu vert du Parlement, au moment où on se parle, il est loin d'être garanti.
C'est sûr, oui. Même si Boris Johnson parle de nouvel accord fantastique, il est loin de faire l'unanimité. À droite, d'abord, les conservateurs les plus radicaux, ceux qui sont proches des populistes et de Nigel Farage, estime que le Premier ministre a fait trop de concessions. Ils ne veulent pas d'une période de transition jusqu'en 2020, jugée trop longue. En parallèle, les unionistes nord-irlandais, traditionnels alliés du gouvernement, refusent eux aussi de valider le texte parce qu'ils ont peur d'être traités différemment du reste du Royaume-Uni. Ils réclament toujours un droit de veto, car même si l'Irlande du Nord sort de l'union douanière, elle est censée continuer à suivre les normes et les règles européennes. S'ajoute à ces voix discordantes celles des députés conservateurs rebelles, ceux qui refusent toujours quoi qu'il arrive de sortir de l'Union européenne. Si on fait le calcul, il manque au moins une dizaine de voix à Boris Johnson pour faire passer son accord. Il espère rallier une partie des travaillistes. Ce sera compliqué. Le chef de file de la gauche, Jeremy Corbyn, appelle à rejeter le texte. Ses propositions, dit-il, risquent de provoquer un nivellement par le bas des droits et des protections et mettre en danger la sécurité alimentaire. Et il réclame, tenez-vous bien, un deuxième référendum sur le Brexit.
Merci Antoine Gignot. Et on se souvient qu'un précédent accord négocié par Theresa May a été rejeté à 3 reprises par le Parlement de Londres. C'est donc samedi ce vote crucial. Voilà ce que l'on pouvait dire à 13h08 sur cet accord trouvé entre Britanniques et Européens. On continue de suivre ça évidemment toute la journée et dans le 18-20 ce soir avec Fabienne Sintès, Amélie Perrier et Sébastien Paour. En Europe encore, une nouvelle nuit de violence en Catalogne. Des affrontements entre manifestants indépendantistes et forces de police à Barcelone en particulier. La condamnation à de longues peines de prison infligées à 9 dirigeants indépendantistes en début de semaine a provoqué ces émeutes. Demain, c'est jour de grève générale et de manifestations à Barcelone. Comme si ça ne suffisait pas à Bruxelles lors de ce sommet, il va aussi falloir que les Européens prennent un peu de temps pour parler d'un autre tout petit sujet, la guerre en Syrie, l'offensive de la Turquie dans le nord de la Syrie depuis 8 jours. Et un pays, un président, n'est pas pour rien dans le chaos dans le nord du pays, le chaos diplomatique aussi. C'est Donald Trump. Un tweet après l'autre, le président américain change sans cesse de position. La première puissance du monde devient impossible à suivre, Valérie Crova. Après avoir semblé donner son feu vert, Trump a écrit une lettre incendiaire au président turc Erdogan le jour où l'offensive a commencé.
Ne jouez pas au dur, ne faites pas l'idiot. C'est en langage fort peu diplomatique que le président américain s'adresse à son homologue turc dans une lettre de 3 paragraphes. Donald Trump tente de persuader Recep Tayyip Erdogan de revenir sur sa décision d'intervenir dans le nord de la Syrie. Le locataire de la Maison Blanche brandit la menace de détruire l'économie turque si le président Erdogan venait à commettre des massacres. Comme à son habitude, Donald Trump souffle le chaud et le froid en évoquant le cas du pasteur américain Brunson, récemment libéré par la Turquie après sa condamnation à 3 ans de prison. Son arrestation avait provoqué une vive tension entre les deux pays. Dans la foulée de sa libération, Donald Trump a promis de revoir les sanctions imposées sur la Turquie durant l'été, donnant. Aujourd'hui, Washington menace d'appliquer de nouvelles sanctions si la Turquie ne met pas fin à son offensive, ce que le président Erdogan a de nouveau exclu hier, imperturbable face aux pressions américaines. Selon nos collègues de la BBC, il aurait d'ailleurs jeté la lettre de Donald Trump à la poubelle.
Et les changements de pied du président américain lui coûtent cher à Washington. Hier, la Chambre des représentants au Congrès a voté contre le retrait des soldats US du nord de la Syrie. 354 voix contre 60. 129 républicains ont voté contre Trump. C'est un vote non contraignant. Le vice-président américain Mike Pence est en Turquie pour essayer d'arracher un cessez-le-feu. À propos de ce conflit, l'Organisation des Nations Unies donne désormais le chiffre de 300 000 personnes déplacées par les combats. Plus de 200 combattants kurdes ont été tués depuis le début de l'offensive, plus de 70 civils. La source, c'est l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ces Kurdes, ballottés par l'histoire et par ce nouvel épisode de guerre, l'envoyé spécial de France Inter, Mathieu Mondoloni, est allé à leur rencontre.
À quelques kilomètres de la frontière, côté turc, la petite ville kurde de Suruj. Ici, un quartier porte un nom bien connu, le quartier Kobané, du nom de la ville voisine située, elle, côté syrien. Dans son épicerie, Mustapha essaye désespérément de joindre ses nièces et ses cousins, dont il est sans nouvelles depuis plusieurs jours.
Il y avait des frappes aériennes, donc ils sont allés 40 kilomètres plus loin. Les gens ont peur, ils dorment dehors à la belle étoile et restent éloignés des habitations.
Il est évidemment très inquiet, notamment avec la présence de milices de l'autre côté de la frontière.
Ces groupes armés qui surgissent, on ne sait pas s'ils viennent de Turquie ou ce sont des groupes d'Arabes de Syrie. D'un seul coup, ils apparaissent au milieu des habitants et commencent à tirer dans tous les sens. Ça terrorise les civils qui disparaissent comme du bétail apeuré.
L'accord conclu avec les troupes de Bachar el-Assad qui sont déployées de l'autre côté est loin de rassurer son associé Kamal.
Maintenant, on est obligé de leur tenir la main pour qu'ils viennent nous protéger, car personne d'autre ne nous défendra. J'espère que les civils souffriront le moins possible, que les villes ne seront pas détruites.
Les Kurdes se sentent abandonnés, délaissés. Eux qui se sont battus contre Daesh estiment l'avoir fait pour tout le monde. Aujourd'hui, ils ont le sentiment d'être tout seuls.
Voilà pour ce reportage de l'envoyé spécial de France Inter, Mathieu Mondoloni. Les Kurdes demandent l'instauration d'un couloir humanitaire pour évacuer les civils dans le nord de la Syrie. Et puis la guerre fait aussi des victimes turques, évidemment. 6 soldats et 20 civils tués, selon Ankara.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvic.
À l'heure où le changement climatique appelle des changements de comportement dans la vie quotidienne, une étude de l'Agence internationale de l'énergie nous dit qu'il y a du boulot. Les SUV, ces grosses voitures style 4x4 qui pullulent sur les routes et dans les rues, sont une source de pollution majeure, Yann Gallic.
Oui, ces voitures aux allures de 4x4 urbains sont devenues, selon cette étude, la deuxième cause de l'augmentation des émissions mondiales de CO2, des véhicules plus polluants que l'industrie lourde ou les avions, mais qui sont de plus en plus prisés. En 2010, les SUV représentaient environ 18% des ventes de voitures dans le monde. Aujourd'hui, c'est plus de 40%. En France, les ventes ont été multipliées par 7 au cours de la dernière décennie, explique Mathieu Chassignet, ingénieur à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
SUV consomme à peu près 25% de plus qu'une voiture moyenne. Ce sont des véhicules qui sont plus lourds et donc en termes de, voilà, d'extraction des matériaux, de production, c'est plus énergivore. Et puis il y a un vrai effet de mode qui est alimenté par les constructeurs qui fait qu'aujourd'hui on vend énormément de SUV. La plupart des pubs automobiles sont pour les SUV parce que ce sont des véhicules qui sont plus rentables pour les constructeurs.
Les SUV sont aussi plus dangereux pour les piétons et ils prennent beaucoup plus de place dans les villes. Sarah Fayol est chargée des transports chez Greenpeace France.
On est sur des véhicules qui émettent plus de CO2 alors qu'on est dans un moment où on doit réduire drastiquement nos émissions de CO2. Donc clairement, ça rajoute un problème supplémentaire alors qu'on n'avait vraiment pas besoin de ça. Donc que les SUV soient électriques, diesel, essence, ça reste des véhicules qui sont disproportionnés par rapport aux besoins des usagers, notamment en ville, et qui vont à contresens de ce dont on a besoin face à l'urgence climatique.
Selon Greenpeace, le pouvoir politique doit absolument mettre en place une réglementation plus contraignante pour limiter ce genre de véhicules et faire pression sur les constructeurs automobiles.
Et l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot appelle à interdire la publicité pour les SUV et à faire respecter les normes anti-pollution, notamment pour l'azote. Il estime que les constructeurs de ces voitures ne respectent pas les normes. C'est la loi, certes, mais elle est appliquée avec une sévérité inhabituelle. En France, Emmaüs abrite des compagnons sans papier. Depuis la rentrée, en moyenne, 2 sont arrêtés chaque semaine, selon la compagnie. Dernier exemple en date, en Occitanie, un homme de 36 ans, origine algérienne, il travaille pour Emmaüs depuis 3 ans. Il a été arrêté lundi dernier dans un train entre Rodez et Toulouse. Il pourrait être expulsé de France. Une audience est prévue dans quelques minutes, en tout début d'après-midi, à Toulouse. Et cela met en colère le responsable Emmaüs de Rodez, Patrick Gomez.
Les migrants qui atterrissent chez nous sont des gens qui travaillent, qui font une déclaration d'impôts, qui cotisent à l'URSSAF. Voilà, ce sont des gens qui sont vraiment dans un cadre très précis. Et jusqu'à présent, vu qu'il n'y a pas de problématique spéciale avec ces gens-là, on leur fichait un peu la paix. Ça, c'est fini. C'est terminé, visiblement. On est passé à autre chose. Au mois de novembre, ce sont les 70 ans d'Emmaüs. Je pense que si ça continue, il faut que M. Castaner entende bien qu'il va avoir un mois de novembre très agité. C'est clair que là, on ne va pas se laisser faire. On va se rebiffer. Et au mois de novembre, au lieu de fêter les 70 ans d'Emmaüs, créés par l'abbé Pierre, quand même, faut pas l'oublier, qui a été longtemps la personnalité préférée des Français, au lieu de faire ça dans la bonne humeur, dans la joie, peut-être qu'on va faire ça de manière un petit peu plus, comment dirais-je, plus nasse.
Un propos recueilli par Mayeul de Charon. Dans l'affaire Epstein, une première plainte pour des faits non prescrits vient d'être déposée en France contre l'ex-agent de mannequin Jean-Luc Brunel. Plainte pour harcèlement sexuel. Jean-Luc Brunel est par ailleurs soupçonné d'avoir joué les rabatteurs pour Jeffrey Epstein, le milliardaire qui avait été inculpé pour l'organisation d'un réseau de jeunes filles et qui s'est suicidé en prison. Imaginez l'ambiance à la direction de ce camping de Grimaud qui a vu sa taxe foncière passer de 12 000 à 120 000 euros. Et vous allez l'entendre, il y a des exemples encore plus frappants. Dans le Var et les Pyrénées-Atlantiques, deux départements très touristiques, le montant de cet impôt flambe dans les campings. Expliquez-nous pourquoi, Sophie Glotin.
C'est très simple, les taxes foncières sont désormais calculées sur la superficie totale du camping avec les allées, les parkings ou encore les espaces boisés. Avant, seules les surfaces commerciales étaient taxées, d'où cette facture douloureuse.
On multiplie par 30 notre contribution fiscale.
Thomas Faure est le directeur juridique du camping Contiki de Ramatuelle.
On était à 3,4 millions d'euros de taxes foncières.
Au lieu de
120 000.
Dans d'autres campings, le montant de la taxe foncière est même supérieur au chiffre d'affaires. Le syndicat de l'hôtellerie de plein air veut croire à une erreur de l'administration fiscale, mais les premiers effets se font déjà sentir avec une baisse des investissements, selon le président du syndicat, Michel Nord.
L'année dernière, une commerciale de Mobilhome avait vendu déjà plus de 300 unités. Cette année, elle n'a pas encore atteint 60. Si jamais rien n'est fait, on ne pourra pas survivre.
Et c'est aussi ce que craint Françoise Dumont, présidente du comité départemental du tourisme.
C'est l'avenir des campings qui est en jeu. S'il n'y a pas une révision urgente de ces bases locatives, on est purement et simplement en train de tuer des entreprises. Je rappelle que l'économie touristique est l'une des premières économies de notre département.
Voilà pour ce reportage de Sophie Glotin. Près d'une semaine après, la mère de famille prise à partie par un élu d'extrême droite au conseil régional de Dijon va porter plainte. Plainte notamment, c'est ce qui est annoncé en tout cas pour provocation publique à la haine raciale par des élus. Depuis le début de cette histoire, une remarque revient régulièrement. Il n'y a qu'en France qu'une telle fixation existerait sur le voile. Bonjour Delphine Simon.
Oui, bonjour.
Alors est-ce que c'est le cas? Nous allons voir cela avec votre chronique européenne, comparaison des législations et des sensibilités sur la question en Europe, Delphine.
Oui, la France est bien une exception en Europe dans la mesure où elle impose une neutralité absolue à tous ses fonctionnaires et à tous les agents de l'État. Une telle fixation sur le voile et sur les signes religieux, je cite l'Observatoire de la laïcité, n'existe nulle part ailleurs, y compris dans des pays pourtant agités par des débats très tendus sur l'immigration comme l'Italie.
Alors prenons l'école, Delphine Simon, quelle est la situation?
Eh bien si on parle du hijab, c'est-à-dire un voile couvrant mais qui laisse visible le visage. Chez nos voisins, pas de restrictions généralisées. Une étudiante peut se rendre au collège ou au lycée vêtue d'un simple voile. Une enseignante peut aussi faire cours à l'université vêtue d'un foulard. Chez nos voisins, les signes religieux chrétiens font souvent partie de l'espace public. En Autriche, il n'est pas rare de voir des crucifix dans les salles de classe. En Grèce, si le voile à l'école est interdit, c'est tout simplement parce que seuls les signes de la religion orthodoxe sont autorisés.
Et les enseignantes?
Eh bien, aucune loi n'interdit le port de signes religieux pour les enseignantes. Les gouvernements, le plus souvent, hésitent à légiférer. Ils refilent en quelque sorte la patate chaude aux provinces et aux communes. Ainsi, il y a eu des débats dans certains cantons suisses, ainsi qu'en Allemagne, où 6 des 16 Länder, les régions allemandes, interdisent le voile aux enseignantes des écoles publiques.
Qu'en est-il dans les services publics?
Eh bien, c'est variable. En Belgique, d'une façon générale, les symboles religieux, y compris le voile islamique, sont interdits pour les juges, les policiers, les militaires et les pompiers. En Allemagne, seuls 2 Länder ont posé ce type d'interdiction. Ailleurs, on est beaucoup plus souple. La tradition britannique s'oppose à ce que l'État dicte aux gens ce qu'ils doivent porter. Du coup, les policières britanniques, mais aussi norvégiennes ou suédoises, ont le droit de porter le voile.
Le débat serait donc franco-français, pas de répercussions à l'étranger?
C'est vrai qu'au sein de l'Union européenne, le principe de liberté religieuse l'emporte, mais le débat sur l'islamisme change un peu la donne aujourd'hui. Et la France fait désormais figure de pionnière sur un point. En 2010, elle est devenue le premier pays à interdire le voile intégral dans l'espace public. Mais depuis cette date, le niqab ou la burqa ont été bannis par plusieurs pays, Danemark, Autriche, Belgique, le plus souvent avec l'argument de la sécurité. Là encore, il faut être prudent, il n'y a pas de règles en Europe. En Suède, par exemple, le Parlement a rejeté une telle interdiction. Les femmes musulmanes couvertes des pieds à la tête constituaient une infime minorité et le problème ne pouvait pas être résolu par une loi, a résumé un ministre suédois.
Comment ça se passe ailleurs en Europe? La chronique de Delphine Simon tous les jeudis dans ce journal de 13h. Une nouvelle soirée de débat à propos de la réforme des retraites. Cette fois, c'est le Premier ministre Édouard Philippe qui donne de sa personne. Discussion en début de soirée avec des parents d'élèves à Lons-le-Saunier. Tout cela alors que 8 syndicats et mouvements de jeunesse appellent à une journée de grève interprofessionnelle le jeudi 5 décembre prochain. À propos de cette réforme qui prévoit, rappelons-le, un régime unique à points à partir en principe de 2025, un éclairage sous forme de questions avec vous, Laurent Kramer. Est-ce que les femmes risquent d'être perdantes de cette réforme?
Alors, dans le secteur privé, aujourd'hui, les femmes bénéficient de 8 trimestres, soit 2 années de cotisation supplémentaire par enfant. Bonification qui entre dans le calcul de leurs droits à partir plus tôt avec un taux plein. Cette bonification en trimestre pour chaque enfant disparaîtrait dans le futur système par points. À la place, une nouvelle forme de bonification, non plus en durée de cotisation, mais sous la forme d'une surcote. Majoration de 5% pour chaque enfant sur le montant de leur retraite. 10% en plus au deuxième enfant, 15% en troisième, avec une limite qui reste aujourd'hui à définir. Le système a ses avantages et également ses inconvénients. Ce système par points, présenté comme avantageux pour les femmes avec un ou deux enfants qui ont commencé à travailler plus tôt que la moyenne bénéficieront de l'âge pivot de 64 ans, mais aussi d'une surcote sur le montant de leur pension. Mais dans ce nouveau mode de calcul en points, les femmes ne pourront pas non plus partir plus tôt grâce à cette surcote. Et rien n'indique non plus qu'elles conserveront leurs avantages, les avantages acquis aujourd'hui au moment de la bascule dans le futur système par points.
Laurent, ça se complique aussi pour les familles avec 3 enfants.
Aujourd'hui, les deux parents bénéficient chacun d'une majoration de 10% au troisième enfant, mais aussi de trimestres supplémentaires pour partir plus tôt à la retraite. Dans le futur système, les deux parents se partageront 15% de bonification contre 20% aujourd'hui. Les femmes avec 3 enfants seront donc clairement perdantes dans le futur système par points.
C'était le Maelstrom le week-end dernier, l'arrestation supposée de Xavier Dupont de Ligonnès. Comment expliquer les nombreux ratés, notamment ceux de la police? Le procureur de la République de Nantes a saisi l'IGPN, la police des polices. La boxe est un noble art, dit-on. C'est aussi un sport qui tue. L'Américain Patrick Day vient de mourir 4 jours après un combat qu'il avait laissé inconscient à Chicago. Lourde chute sur la tête après avoir reçu un crochet. Fabrice Rigobert, c'est le 3e mort après un combat cette année.
L'Argentin Santillane en juillet, le Russe Dadachev 2 jours plus tard, Patrick Day cette nuit, ce 3e décès en moins de 4 mois, ravive le débat de fond posé par la violence des chocs et leurs conséquences dans le noble art qui avait déjà conduit à limiter les combats à 12 rounds à la fin des années 80. Certaines études au Canada notamment évaluent à 80% le nombre de commotions cérébrales non déclarées dans un sport où il est inimaginable d'interdire par exemple les coups à la tête. Seule solution pour garantir d'éviter ce type d'accident dramatique. Garantir non, car en fait, même les coups portés au corps peuvent aussi être à l'origine de commotions. Aux instances de réfléchir pour au moins limiter les risques en sensibilisant encore plus les arbitres pour qu'ils stoppent les combats plus tôt, dès les premiers signes inquiétants, sans forcément tenir compte de l'avis des combattants, trop souvent prêts à dépasser les limites du raisonnable pour protéger leur carrière. Un débat nécessaire et paradoxal au moment où le MMA, sport de combat extrême et populaire, s'apprête à arriver officiellement en France.
En football au PSG, un blessé de plus, le milieu de terrain Idrissa Gueye, touché à la cuisse. Il sera absent au moins 10 jours. La réunion des opéras de France, qui fédère 35 opéras, festivals et compagnies lyriques, vient d'adopter une charte éthique. Charte notamment contre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Alors on a beaucoup parlé, Stéphane Capron, ces dernières semaines de l'affaire Placido Domingo, mais les affaires existent aussi en France.
En 2017, le directeur du ballet de l'Opéra de Lyon a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour discrimination au travail et harcèlement après avoir demandé le non-renouvellement du contrat d'une danseuse à son retour de congé maternité. C'est pour que ce genre d'affaires ne se reproduise plus que les adhérents de la Réunion des Opéras de France ont adopté à l'unanimité cette charte. Elle protège tous les salariés en matière d'égalité des chances et d'intégrité. Elle condamne toute forme de harcèlement moral ou sexuel. La demande de cette charte est venue des professionnels, des artistes. Les opéras se veulent désormais irréprochables. Laurence Lamberger-Cohen est la directrice de la Réunion des Opéras de France.
Il se trouve que dans nos maisons, les directions de production sont vraiment à la confluence de l'ensemble des métiers de l'opéra. C'est à leur demande qu'on a commencé à travailler, à réfléchir à cette charte éthique. À cause des problèmes rencontrés, il ne faut pas se mentir. Bien sûr, il y a des cas de harcèlement morale et sexuelle dans les opéras, comme partout ailleurs, je dirais.
Pour que cette charte soit efficace, la Réunion des Opéras de France a mis en place une procédure de signalement. Elle préserve l'anonymat et la protection à tout lanceur d'alerte qui ne pourra faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire au sein de la maison qu'il emploie.
De l'Opéra à l'Académie, cet après-midi, discours de réception d'une femme sous la coupole. Barbara Cassin, il y a 4 femmes pour 31 hommes parmi les immortels. Hélène Carrère d'Encausse, Florence Delay, Dominique Bonnat et maintenant donc Barbara Cassin. Un signe de plus que la préoccupation pour le climat infuse dans toute la société. Avant d'entendre Mathieu Vidard à partir de 13h30, la FIAC, Foire Internationale d'Art Contemporain, vient d'ouvrir à Paris, quartier du Grand Palais et même au-delà. Et vous l'avez constaté, Isabelle Pasquier, beaucoup d'artistes manifestent à travers leurs œuvres leur inquiétude, inquiétude qui perce derrière le clinquant de la FIAC.
À la FIAC, l'euphorie des collectionneurs donne l'impression que c'est le premier jour des soldes, sauf qu'ici, il y a 5 ou 6 zéros sur les chèques. Mais loin de cette bulle hors sol, des artistes s'emparent de l'urgence climatique. Premier choc, les parapluies de toutes les couleurs, noyés dans le bassin du jardin des Tuileries, les nymphéas post-déluge, une installation de Noël Dola.
Ces parapluies disparaissent sous l'eau, comme si tout d'un coup le niveau de l'eau était monté et que toute une partie du peuple avait disparu sous son parapluie. Ce qui m'intéresse, c'est de continuer à faire de l'art qui soit le plus poétique possible. Et je pense que la poésie permet de penser le monde.
Un peu plus loin, des mains qui semblent disparaître dans le néant de grottes post-apocalyptiques de Jean-Marie Apriou, pas vraiment climato-sceptique.
Ça me paraît essentiel. Les artistes sont aussi des porte-voix de cette chose qui est en train d'arriver et contre laquelle il faut se battre.
Direction le Petit Palais, devant les formes mutantes de Michele Ciacciofera.
Aujourd'hui, encore plus, le rôle des artistes, c'est l'engagement. On ne peut plus continuer avec l'indifférence, surtout par rapport à des questions si urgentes comme les problèmes écologiques.
Autre choc aux Tuileries, le plasticien béninois Romuald Azoumé a installé une vieille Peugeot qui s'encastre dans un mur avec tous ses bidons de pétrole trafiqués, quand les artistes sont aussi des lanceurs d'alerte.
Et la FIAC, c'est à Paris jusqu'à dimanche prochain. Et dans ce domaine de l'art, une vente très attendue se tient ce soir. Le tableau Le Parc des Princes, l'une des plus célèbres toiles de Nicolas de Staël. Les prix pourraient atteindre des sommets pour Nicolas de Staël. Le record à battre, c'est 12 millions. C'est chez Christie's à Paris.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Jean-Pierre Hameau.
Un vrai temps automnal cet après-midi avec de bonnes pluies sous un ciel couvert de l'Aquitaine au Massif Central et de la Bourgogne-Franche-Comté à la région Grand Est. À l'arrière et dans un grand quart nord-ouest, établissement d'un ciel de traîne plutôt nuageuse apportant par moments quelques averses. Des averses plus fréquentes entre la pointe bretonne et le Cotentin. En revanche, le temps sera sec sous un ciel partagé entre éclaircies et cumulus du côté de Midi-Pyrénées, du Roussillon et de la région PACA au Massif Alpin. Et n'attendez pas d'amélioration pour demain. Pluies ou averses resteront au programme de la journée dans la plupart des régions. Les pluies seront même soutenues, voire orageuses des Cévennes au Jura, en passant par le nord des Alpes. Les cumuls de pluie dans ces régions seront localement compris entre 40 et 60 mm.